Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces petits êtres faibles qui veulent redessiner le monde. Une chronique de Samuel La Rochelle parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. J'ai pitié. Quand je croise dans le métro des croyants, croyantes qui se gèlent le cul pendant des heures dans l'espoir de convertir de nouvelles âmes. Quand je vois les homophobes et les transphobes s'arracher les cheveux parce que tous les humains ne leur ressemblent pas. Quand j'entends parler des masculinistes qui veulent imposer une vision unique de l'homme, de la famille et du succès, je me demande comment ils font pour ne pas réaliser à quel point leur comportement expose leur faiblesse de caractère. Commençons par les adeptes de l'évangélisation. Plusieurs fois par semaine, je les vois se tenir en petit troupeau dans une station de métro. De loin, ces personnes semblent bienveillantes et chaleureuses, le genre avec qui tu voudrais faire du ragoût de boulettes dans une cuisine communautaire pour aider les démunis. En réalité, elles utilisent leur temps libre pour convertir des gens à leurs croyances. Elles pourraient faire des gâteaux, du crossfit ou de la danse en ligne. Mais non, elles se tiennent debout pendant des heures dans l'espoir d'inciter des inconnus à suivre leur courant de pensée. Évidemment, elles sont convaincues d'agir ainsi pour sauver d'autres humains du mal et de la damnation. Mais leur objectif est d'augmenter le nombre de personnes qui adhèrent à leur culte. Ces organisations religieuses prônent en surface l'amour, le partage et l'entraide, en excluant une liste interminable de personnes qui ne correspondent pas à leur vision du monde. Je ne surprendrai personne en écrivant que j'ai horreur des religions. Je suis le fruit de la Révolution tranquille qui a expulsé l'Église des lieux de pouvoir, d'éducation et du reste de la société. L'autorité me donne de l'eczéma. Je suis un travailleur indépendant sans patron depuis 13 ans et je remercie le ciel d'avoir des parents qui ne m'ont jamais dit quoi étudier, dans quoi travailler, qui aimer et qui devenir. Bref, toute forme de chemin à suivre me pue au nez. Néanmoins, je peux comprendre en partie l'intérêt pour les groupes religieux. On peut y trouver une communauté, un sentiment d'appartenance et des conseils sur comment mener notre vie. Je suis conscient du caractère anxiogène de l'existence. On est constamment placé devant l'inconnu au travail, en amour, en amitié et dans nos familles. Cela peut donc être rassurant d'avoir un mode d'emploi à suivre. Un peu comme d'autres écoutent les directives d'un ou d'une prof, les conseils d'un, d'une mentor ou les propositions d'un parent. J'ai toutefois deux immenses problèmes. Le premier, lorsque les paroles religieuses ne sont plus des propositions, mais des directives émanant d'un être supposément supérieur. Si je rencontrais des fidèles, j'aurais envie de les brasser par les épaules et de leur dire qu'elles sont capables de prendre des décisions par elles-mêmes, plutôt que d'avaler un discours prémâché qu'on régurgite dans leur cerveau. Mon deuxième problème, quand il leur semble nécessaire de jouer aux missionnaires qui colonisent les esprits pour agrandir le cercle de personnes pensant comme elles. Des colonisateurs de la pensée. L'expression vaut également pour les homophobes. Prenons un instant pour analyser le ridicule de leur réaction. La simple idée qu'un humain ait des préférences sexuelles et amoureuses différentes des leurs suffit pour les faire capoter. À leurs yeux, tout le monde devrait avoir les mêmes intérêts qu'eux. Mais pourquoi être si confronté par des humains différents? Parce que ça les force à réaliser que la vie n'est pas une ligne droite qu'on doit suivre comme des robots sans capacité de penser? Parce que l'autodétermination exige une réflexion qui les effraie? Parce que d'assumer sa nature profonde ou ses choix de vie nécessite une véritable force qu'elles n'ont pas? Qu'en est-il des transphobes? Elles sont incapables d'accepter qu'une personne se sente plus heureuse en s'identifiant à un genre qui ne lui a pas été attribué à la naissance et qu'elle fasse certaines démarches, nom, pronom, look, parfois des hormones et des chirurgies, pour se rapprocher de son identité véritable. Cela n'a aucun impact sur l'identité des gens qui les entourent. Il leur faut tout au plus s'adapter à la façon de référer à la personne trans, comme quand on apprend de nouveaux mots durant notre vie et qu'on refuse de laisser notre cerveau baigner dans le formol. Encore une fois, les transphobes ne voient pas que leur besoin d'empêcher autrui de vivre comme elle l'entend témoigne d'une profonde anxiété à l'idée que la vie ne soit pas unidimensionnelle, toute planifiée et rassurante. Faut-il également parler des masculinistes? Ces petits chiens qui jappent fort? Ces hommes qui se gorgent de muscles pour projeter une image clichée du mâle alpha, Ces individus qui, eux aussi, ont besoin de suivre un mode d'emploi de la masculinité, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre avec les nuances du monde, parce que ça les insécurise, parce qu'ils ont besoin d'adhérer à un modèle rigide pour se rassurer qu'ils font bien les choses. Imaginez, les boys, si vous osiez découvrir le monde au lieu de vivre votre vie comme un modèle réduit à assembler, vous sauriez alors ce qu'est la véritable force. C'était « Ces petits êtres faibles qui veulent redessiner le monde », une chronique de Samuel Larochelle parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Les aides techniques ouvertes par la SAC, optimisez vos demandes d'indemnisation. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, paru dans le numéro 162 au printemps 2024 dans le magazine Paraquad. Une importante portion des lésions médulaires traumatiques sont causées par des accidents de voiture. Nous souhaitons ici explorer la question de la couverture financière pour les aides techniques relevant des technologies de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAC. Il est essentiel de préciser que cet article vise à vulgariser le sujet et non à servir de référence précise. Pour des informations exactes, il est recommandé de se référer directement aux documents cités. Dans un premier temps, nous examinerons certains principes incontournables en matière d'indemnisation par la SAC. Puis, nous nous pencherons sur les aides techniques liées au fauteuil roulant avant d'aborder l'indemnisation des équipements favorisant la réadaptation, notamment pour les activités liées à l'autonomie, à la communication et aux loisirs. À savoir avant toute demande d'indemnisation. Avant d'entamer toute démarche d'indemnisation auprès de la SAC, il est crucial d'avoir une bonne compréhension de certains points pour maximiser ses chances de succès et éviter les désagréments. Tout d'abord, il est important de noter que la SAC est un assureur public réglementé par la loi sur l'assurance automobile, LAA, laquelle établit des barèmes encadrant ses pouvoirs discrétionnaires. Afin d'assurer une uniformité dans l'exercice de ses pouvoirs, la SAC élabore et actualise des directives qui servent de guide aux agents d'indemnisation dans leurs décisions. Dans cet article, nous nous sommes basés sur ces directives et sur la LAA pour mettre en lumière certains aspects qui surprennent souvent les demandeurs lors de leurs requêtes. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la SAC n'est pas le premier organisme payeur. En d'autres termes, si la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, ou tout autre régime de sécurité sociale couvre l'équipement demandé, la SAC refusera la demande. Afin d'éviter des retards, il est donc recommandé de toujours consulter son agent payeur afin de déterminer si un refus de la RAMQ est requis avant d'entamer les procédures. Deuxièmement, il est primordial de se rappeler que l'acquisition d'une aide technique doit toujours être précédée d'une autorisation formelle de la SAC. Il arrive trop souvent que des individus se retrouvent dans l'embarras après avoir effectué un achat qui ne répond pas aux critères établis par l'agent payeur. Par exemple, nous avons déjà suivi des cas où des personnes avaient acheté un équipement alors que la location était la meilleure option recommandée, même si cela entraînait des coûts plus élevés à long terme. Ainsi, bien que les procédures administratives puissent occasionner des délais, il est préférable de respecter le processus établi en faisant appel à notre service de défense des droits, au protecteur du citoyen ou à d'autres services d'accompagnement en cas de délai jugé excessif. En outre, il est crucial de ne jamais sous-estimer l'importance d'une évaluation médicale approfondie réalisée par un professionnel de la santé qualifié. Pour augmenter ses chances de succès, l'ordonnance ou la recommandation médicale doit être détaillée et répondre aux exigences spécifiques liées à la demande. De même, elle doit souvent être accompagnée de rapports d'évaluation répondant également à des critères spécifiques. Une bonne pratique consiste à fournir aux professionnels de la santé les directives encadrant les demandes afin que son ordonnance soit conforme à toutes les conditions requises. Aide technique et fauteuil roulant. Cela étant dit, après un accident, quelles sont les aides techniques auxquelles nous pouvons prétendre? La LAA garantit aux personnes accidentées le remboursement des frais engagés à la suite de l'accident et autorise la SAC à réglementer cette indemnisation. C'est dans ce cadre que la directive encadrant le remboursement des frais liés au fauteuil roulant, y compris les quadriporteurs, les triporteurs et leurs accessoires, a été adoptée. La SAC vise trois objectifs principaux pour ce type d'indemnisation. Permettre à la personne de se déplacer de manière autonome et sécuritaire, améliorer son autonomie dans ses déplacements et favoriser son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. En plus des triporteurs et des quadriporteurs, la SAC prend en charge les frais liés à l'achat, la réparation, le remplacement et la location de fauteuils roulants manuels ou motorisés, ainsi que des commandes au menton, au souffle ou d'autres types pour les personnes ayant des limitations sévères au niveau des membres supérieurs. Elle couvre également les systèmes de verticalisation manuelle ou motorisée permettant de passer de la position assise à debout. Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions, les ordonnances et les barèmes de prix concernant les fauteuils, veuillez vous référer à la directive elle-même. Cependant, nous aimerions attirer votre attention sur les composants et accessoires indemnisables souvent méconnus. Un composant est une aide technique faisant partie intégrante du fauteuil roulant, tandis qu'un accessoire est une pièce ou un équipement ajouté à celui-ci et ne nécessitant pas d'approbation préalable du service de couverture. Les demandes de composants à la SAC doivent être accompagnées d'une ordonnance d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée, ainsi que d'un rapport d'un ergothérapeute. Pour les accessoires, l'évaluation d'un ergothérapeute suffit. Les demandes excédant 500 $ doivent généralement être appuyées par deux soumissions. De plus, il est essentiel de vérifier avec votre agent payeur si l'accessoire ou le composant demandé est couvert par la RAMQ et s'il est nécessaire de faire une demande préalable. Un manquement à ce critère pourrait affecter la couverture de votre fauteuil à l'avenir. À titre d'exemple de composant, on peut citer un dossier spécialisé, une ceinture de sécurité ou des dispositifs d'assistance à la propulsion pour les fauteuils manuels. Certains dispositifs d'aide peuvent être positionnés à l'avant du fauteuil, comme la fourche Firefly ou le Mototronic, ou à l'arrière, tels que la Smart Drive et le Smooth. D'autres se fixent directement sur les roues, comme les eMotion. En ce qui concerne les accessoires, on peut mentionner des appareils ou des kits de réparation, de nettoyage et d'entretien pour le fauteuil ou ses pneus, des gants de propulsion, des roues et ou des pneus de secours, un rétrécisseur de fauteuil manuel pour faciliter l'accessibilité, des paniers, des sacs, des porte-documents, des tables, ainsi que des dispositifs de visibilité pour les fauteuils motorisés. Aide technique et réadaptation. Passons désormais à l'indemnisation des équipements nécessaires à la réadaptation. Conformément à la LAA, la SAC dispose du pouvoir discrétionnaire pour prendre les mesures requises afin de contribuer à la réadaptation d'une victime d'accident de la route. L'exercice de ce pouvoir doit permettre à la personne de retrouver un niveau de vie se rapprochant le plus possible de celui qu'elle avait avant l'accident, en favorisant sa réinsertion sociale, scolaire et professionnelle. Il est digne de mention que, contrairement à de nombreuses aides techniques, le législateur n'est pas fixé de limite en termes de dépenses de réadaptation. Dans les prochaines sections, nous verrons comment cela s'articule en termes d'aide technique, facilitant les activités visant la communication et l'autonomie dans la communauté, ainsi que les activités de sport et de loisirs. Vous écoutez les aides techniques couvertes par la SAC, optimiser vos demandes d'indemnisation. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru dans le numéro 162 au printemps 2024 dans le magazine Paraquad. Équipement spécialisé favorisant l'autonomie et la communication. Dans ce contexte de communication et d'autonomie, la SAC indemnise des appareils ou équipements spécialisés. Le terme « spécialisé » fait référence à des dispositifs dont l'usage n'est pas courant pour l'ensemble de la population et qui ne sont pas disponibles dans les commerces habituels. Plus précisément, pour être admissible à l'indemnisation, l'équipement spécialisé doit remplir 7 conditions. Il doit, 1. être nécessaire pour compenser les incapacités résultant de l'accident, 2. entraîner un progrès significatif dans l'accomplissement des activités liées à la communication et à l'autonomie dans la communauté, 3. permettre l'atteinte des objectifs d'intégration sociale prévus dans le plan d'action, 4. respecter les critères d'efficience en constituant la solution appropriée au moindre coût pour éliminer la situation de handicap, 5. permettre la réalisation de l'activité de façon sécuritaire, 6. présenter un potentiel d'utilisation courante et de persistance à long terme, et enfin, 7. être recommandé par un professionnel qualifié. De plus, toute demande d'indemnisation doit être accompagnée d'un rapport d'évaluation établissant le lien entre les incapacités de la personne accidentée et les obstacles rencontrés dans la réalisation des activités visant la communication ou l'autonomie dans la communauté, ainsi que des recommandations relatives aux appareils et équipements nécessaires. Si les frais demandés dépassent 500 $, deux soumissions doivent également être fournies. Aide technique favorisant l'autonomie. Exemple concret. Concrètement, quels sont les équipements entraînant un progrès significatif dans l'accomplissement des activités liées à l'autonomie et dont la location ou l'achat peut être remboursé? Un exemple notable, dont nous sommes particulièrement fiers chez MemoQC, est l'indemnisation du bras motorisé. En l'espèce, il s'agissait d'un bras Jaco, qui a été indemnisé sur ordonnance du Tribunal administratif du Québec, TAC, pour la toute première fois en 2019 à un de nos membres, M. Simon Marcotte. Cette demande, pour laquelle nous avons accompagné M. Marcotte, visait un bras motorisé et articulé qui se fixe au fauteuil et qui permet aux personnes souffrant de lourdes atteintes aux membres supérieurs d'accomplir des actions qu'elles n'ont pas pu réaliser depuis leur accident. Par exemple, cela a permis à M. Marcotte, tétraplégique depuis qu'il était jeune adulte, de se gratter et de se servir à boire en toute autonomie. Un autre exemple concerne les rampes d'accès portatives, destinées à faciliter l'accès à des lieux publics ou privés autres que le domicile de la personne. La rampe peut être indemnisée si les 4 conditions suivantes sont respectées. 1. La personne se déplace en fauteuil roulant de manière permanente. 2. La personne est incapable de franchir un escalier muni de mains courantes. 3. La rampe est nécessaire à l'intégration sociale de la personne. Et 4. Cette dernière n'a pas besoin d'équipement supplémentaire pour transporter la rampe. Aide technique favorisant la communication. Exemple concret. Comme mentionné plus haut, la SAC indemnise également la location ou l'achat d'aides techniques visant la communication et leur adaptation, si nécessaire. Ces aides comprennent divers équipements pour faciliter la communication orale, tels que les amplificateurs de voix, les amplificateurs avec clarification et les appareils de suppléance à la communication orale. Elles englobent également les aides à la communication non orale, comme la licorne frontale, le tableau électronique et les appareils de communication avec voix synthétique. De plus, les aides à la communication écrite sont également couvertes, telles que les orthèses d'écriture, les tourne-pages, les lunettes prismatiques, les systèmes de livres électroniques, les logiciels de reconnaissance graphique, ainsi que les ordinateurs avec accessoires et les téléphones cellulaires. Attardons-nous quelque peu sur ces deux derniers items. Pour une demande d'ordinateur, la personne doit démontrer plusieurs critères. 1. Qu'elle sait lire et écrire, mais qu'elle présente des limitations fonctionnelles liées à l'écriture. 2. Que les aides techniques disponibles n'offrent pas de solution appropriée. Et 3. Qu'elle a les aptitudes physiques et cognitives pour utiliser un ordinateur. De plus, il est important de noter que l'ordinateur doit être utilisé pour compenser un problème de communication dans la réalisation d'activités significatives, telles que la correspondance et non à des fins de stimulation cognitive. La directive couvre un écran, une souris, une imprimante, un modem, un logiciel de traitement de texte, un logiciel de calcul, les adaptations recommandées par l'ergothérapeute et un cours de familiarisation. Elle exclut cependant les frais d'utilisation d'Internet. Pour l'acquisition d'un téléphone cellulaire, il est important de noter qu'il doit s'agir d'une première acquisition, c'est-à-dire que la personne n'en possédait pas avant l'accident. De plus, les frais d'abonnement et de réparation du téléphone ne sont pas couverts. En outre, la personne doit fournir une justification d'un professionnel démontrant que son usage est nécessaire pour des raisons de sécurité, comme lorsqu'un véhicule est en panne. Aide technique favorisant le sport et les loisirs. Toujours dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en matière de réadaptation, la SAC a mis en place une directive visant à rembourser les frais facilitant la pratique d'activités sportives ou de loisirs dans le but de permettre aux adultes de retrouver leur potentiel d'intégration sociale. Il convient cependant de noter une différence par rapport à la directive encadrant les équipements spécialisés destinés à la communication et à l'autonomie. Celle dédiée aux loisirs fixe un montant total et maximal de 10 000 $ pouvant être dépensé en une ou plusieurs demandes. Par ailleurs, lors de l'acquisition d'un équipement spécialisé, la SAC déduira du montant remboursé le coût d'un équipement standard équivalent, c'est-à-dire un équipement non adapté, sauf si la personne possédait déjà cet équipement standard mais n'est plus en mesure de l'utiliser. La demande peut viser l'adaptation d'un équipement standard de sport ou de loisir, ou encore l'achat ou la location d'un équipement spécialisé. L'équipement doit répondre à 5 critères. Il doit 1. Servir ou viser à compenser les incapacités résultant des blessures subies lors de l'accident, entraînant une situation de handicap dans la pratique d'une activité sportive ou de loisir. 2. Être nécessaire au développement ou au maintien du potentiel d'intégration sociale. 3. Permettre la pratique d'une activité sportive ou de loisir faisant partie des habitudes de vie antérieures ou la réalisation d'une nouvelle activité d'intégration sociale lorsque des activités antérieures ne peuvent pas être reprises. 4. Permettre la réalisation de l'activité de façon sécuritaire. Et enfin, 5. Présenter un potentiel d'utilisation courante et de persistance à long terme, tout en respectant les critères d'efficience. De plus, la demande doit être appuyée par une évaluation et des recommandations d'un ergothérapeute, d'un physiothérapeute ou d'un éducateur physique précisant le lien entre les incapacités de la personne et les obstacles rencontrés dans la pratique de l'activité sportive ou de loisir, les objectifs visés, la faisabilité de l'activité, son aspect sécuritaire et le potentiel d'utilisation par la personne. Elle doit également être accompagnée de deux soumissions si la demande dépasse 500 $. Parmi les équipements spécialisés, on compte par exemple un cycle à manivelle, un tricycle pour adultes, un monoski, un fauteuil roulant spécialisé pour l'exercice du tennis, du basketball ou du rugby, une prothèse aquatique, un lève-personne destiné à la piscine privée ou une ceinture de sécurité spécialisée. De plus, il est possible de faire adapter des équipements standards comme une canne à pêche. En guise de conclusion, il convient de noter que cet article ne se veut pas exhaustif et n'aborde pas plusieurs types d'aides techniques indemnisées par la SAC, notamment dans le cadre de l'adaptation du domicile, du véhicule, du poste d'études ou encore du poste de travail. De plus, il est important de souligner que l'absence d'un équipement dans une directive ne signifie pas qu'il ne peut pas être réclamé. Ce fut notamment le cas de l'indemnisation du bras Jaco cité plus haut. À maintes reprises, le TAC a rappelé que les directives n'ont pas force de loi. Il ne faut donc jamais hésiter à contester toute décision de la SAC si votre demande est justifiée au regard de votre condition. Cette démarche contribue à faire évoluer l'application des directives à la SAC et à faciliter progressivement l'accès aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap, même celles sans agent payeur indemnisées par des régimes plus restrictifs tels que les régimes de sécurité sociale. Cela étant dit, MémoQC demeure toujours prêt à vous accompagner en cas de difficultés rencontrées lors de vos demandes d'indemnisation, que vous ayez un agent payeur ou non. De plus, nous nous engageons à poursuivre nos démarches et nos représentations auprès des différents acteurs concernés afin de défendre les intérêts collectifs des personnes en situation de handicap, quelle que soit la source de leurs limitations, et à réclamer l'uniformité des couvertures à travers la province. C'était des aides techniques couvertes par la SAC, optimiser vos demandes d'indemnisation. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, paru dans le numéro 162 au printemps 2024 du magazine Paraquad.